Merci beaucoup, Manu. C'est tellement bon ce qu'on vient de vivre. Je ne sais pas vous, mais la présence de Dieu est vraiment là. Et puis, sa présence est tellement douce. Ça fait tellement du bien. Ce matin, je vais commencer par vous parler de deux histoires. Je ne vais pas forcément les commenter maintenant, mais je vais y revenir plus tard, si jamais, donc ne soyez pas choqués. Il y a plein d'histoires dans la Bible, elles sont toutes bien, elles sont toutes interpellantes. J'ai été obligée de choisir, du coup j'en ai choisi deux. On va parler un petit peu de Daniel ce matin. Si on se remémore l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, Darius, vous voulez que je vous fasse de la place ? Darius, c'était un roi héritier de Babylone et puis il voulait choisir 120 administrateurs de son royaume et puis il a désigné trois responsables dont Daniel. Et puis Darius, il réfléchissait même à le mettre en fait responsable de tout le royaume parce qu'il aimait beaucoup qui il était et puis il aimait beaucoup son esprit qu'il trouvait supérieur aux autres. Par jalousie, certains n'ont pas accepté ça et du coup, ils ont cherché un moyen d'accuser Daniel, mais ils n'ont rien trouvé. Et du coup, en fait, ils sont allés vers le roi puis lui ont dit « Mais est-ce que tu ne veux pas mettre une règle qui interdit de prier ?» Et puis du coup, le roi était d'accord, il a mis une règle en fait, où il y avait une interdiction de prier pendant 30 jours. Un autre dieu ou roi que le roi Darius. Mais Daniel, il continue de prier trois fois par jour, la fenêtre grande ouverte, comme d'habitude. Du coup, ils courent vers le roi Darius, puis lui disent en fait ce que Daniel a fait. Et puis Darius est attristé parce que c'est quelqu'un vraiment qu'il aimait beaucoup. C'était, pour lui, c'était le meilleur conseiller. Et du coup, il essaye de le sauver en fait en essayant de modifier cette règle. Sauf que les autres disent « Non, mais t'as mis une règle, on ne peut pas la changer comme ça. » Puis effectivement, il ne pouvait pas. Donc, il n'a pas pu sauver Daniel. Et du coup, en fait, il l'envoie dans la fosse aux lions. C'est la punition, en fait, qu'il avait dite de base. Donc, il jette Daniel dans la fosse aux lions, il ferme la fosse aux lions avec une grande pierre, et puis le roi, il rentre chez lui, enfin, dans son royaume, et il passe toute la nuit sans dormir, sans manger, parce qu'en fait, il se fait du souci pour Daniel. Le lendemain, du coup, à l'aube, dès que le soleil arrive, il court à la fosse aux lions et puis il s'approche de la fosse, puis il appelle Daniel d'une voix triste en disant « Daniel, serviteur du Dieu, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et là, Daniel y répond « Roi, puisses-tu vivre toujours, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Et du coup, le roi, il est alors tout heureux et il ordonne de faire sortir Daniel de la fosse. Et puis Daniel, il est retrouvé en fait sans aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. La deuxième histoire, c'est avec trois amis de Daniel. Il faut que je les dise lentement parce qu'à tous les coups, Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà. Et là, il s'agit d'un autre roi, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il avait en fait érigé une grande statue d'or et puis il avait obligé tout son royaume à s'agenouiller puis à l'adorer. Et ces trois jeunes hommes, donc les trois amis de Daniel, ils ont refusé de le faire parce que pour eux, dans leur cœur, il n'y avait qu'un seul Dieu. Il a été irrité par leur désobéissance et puis il les a menacés de les jeter dans la fournaise s'ils ne se conformaient pas à son ordre. Mais eux, ils ont maintenu leur foi et puis ils ont déclaré que même s'ils étaient jetés dans le feu, ils ne serviraient pas les dieux du roi ou ne se prosterneraient pas devant la statue d'or. Du coup, le roi, furieux, il ordonne que la fournaise elle soit chauffée quand même 7 fois plus que d'habitude. Et puis, il ordonne du coup de jeter les trois amis dans la fournaise. Ils ont été ligotés, jetés dans le feu et ça a même tué les hommes qui étaient autour d'eux. Donc, c'était pour dire combien la fournaise était chaude. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils des dieux. » À ce moment-là, il est impressionné par ce miracle et puis il reconnaît la grandeur de leur Dieu. Puis il interdit en fait à toute personne de dire du mal contre ce Dieu. Pardon. On va revenir à ces histoires par la suite, mais quand je prenais du temps pour ce matin, il y a une promesse forte que Dieu m'a mis à cœur et c'est comme s'il voulait vraiment la rappeler ce matin. À plusieurs reprises, ça m'est revenu. Et quand j'ai reçu en fait cette promesse, j'ai vu Dieu qui était en train de la peindre. Et c'était comme s'il me disait, mais en fait, c'est moi l'artiste, écoute-moi, vois-moi, regarde. Je suis le maître de tout, tu peux me faire confiance, tout est entre tes mains. Enfin, il y avait plein de choses en fait autour du fait qu'il peigne. Il voulait comme en fait capter notre attention pour nous révéler cette promesse ce matin. Et on a la joie d'avoir Francis Paillard dans l'église qui peint. Il fait des magnifiques peintures, surtout des peintures prophétiques. Et puis, ce qui est vraiment interpellant, c'est qu'en fait, on voit une première image, une première peinture. Mais souvent, en fait, plus on la regarde, plus on découvre en fait des détails, des choses en fait qui ont vraiment du sens. D'ailleurs, il nous en a offert une qu'on a dans notre chambre. Et puis encore récemment, alors que ça fait presque 2 ans qu'on l'a, encore récemment, j'ai remarqué des détails que je n'avais pas vus avant. Et puis, je lui ai demandé s'il était d'accord de peindre cette promesse que Dieu a envie de nous rappeler ce matin. C'est une image parmi d'autres, mais parfois, les images, elles dépassent les mots. C'est vrai, dans les moments difficiles, des fois, on a besoin d'avoir des images que Dieu nous a révélées directement ou d'avoir des images parce que des fois, c'est tellement difficile ce qu'on vit que ça nous rejoint. Et puis je sais que certains, ils ont aussi un côté sensible, ils ont un côté artistique, sensible à l'art. Et puis du coup, c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur qu'elle puisse apparaître ce matin. Cette pensée, cette promesse, que je crois que Dieu il veut qu'elle soit vraiment ancrée dans nos cœurs, c'est « Je suis avec toi ».« Je suis avec toi ». Et puis, c'est une promesse qu'on va essayer d'approfondir ce matin. C'est une promesse qu'il a dite depuis le tout début. D'ailleurs, je pense même que c'est une des premières promesses. La première fois, ça apparaît dans Genèse 26, 24. Ah oui, pardon, il y a l'image là, elle reviendra après. L'Éternel, elle apparaît pardon à Isaac. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Et pas beaucoup plus tard, il le redit à Jacob dans Genèse 28 « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit « N'aie pas peur, je suis avec toi », c'est souvent lié à l'appel d'une personne à accomplir la volonté de Dieu. En fait, c'est ces promesses qui sont données pour encourager et pour renforcer la foi de la personne qui est appelée à servir pour sa volonté. Et il leur promet qu'il est avec eux et qu'il ne les abandonnera pas. On peut prendre plusieurs exemples. Par exemple, il y a Moïse, avant qu'il soit envoyé pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte, dans Exode 3. Moïse répond à Dieu, « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie, voici la preuve, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » On peut parler aussi de Josué, quand il prend la relève de Moïse pour conduire les Israélites dans la terre promise. Il dit « Pendant toute ma vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. » Ou encore quand Dieu appelle Jérémie à être prophète, je ne vais pas tous les faire, vous inquiétez pas. « Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas « je suis trop jeune », Tu iras partout où je t'enverrai, tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens, en effet, je suis avec toi pour te délivrer. » Il y a encore un autre exemple, mais que je vais pas lire le verset, mais c'est quand Gédéon, il est choisi par Dieu pour délivrer Israël des Madianites. Il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, à chaque fois, on voit qu'il dit qu'il est avec eux, qu'il ne les abandonnera pas. Et puis, il a un plan, une volonté pour leur vie, et puis il promet de les accompagner. « Je suis avec toi », cette promesse, elle est souvent aussi précédée de « ne crains pas, n'aie pas peur ». Et puis, souvent, quand ils reçoivent cette promesse-là, c'est dans des moments difficiles. Et puis, la peur, c'est la réaction humaine et naturelle face à des situations difficiles, à des défis ou même face à l'impossible, comme on a pu le voir dans ces exemples. Et puis, il y a David qui a fait un message il y a 2 semaines sur comment braver la peur, enfin, au-delà des peurs. Et je vous encourage vraiment à le réécouter. Si on reprend les histoires de Daniel et de ses amis, Dieu, dans ces histoires, il n'a pas dit mot pour mot « je suis avec toi ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous dit pas que Daniel il a prié pour éloigner les lions, on ne dit pas que les 3 amis ils ont prié pour éteindre le feu, mais en fait, Dieu il les a rejoints directement dans leur situation, il a envoyé des anges, et puis par sa présence, il les a délivrés. Et c'est vraiment ça. Dieu ne les a pas sauvés de la fosse aux lions et du feu, mais il les a sauvés dans la fosse aux lions et dans le feu. Et on peut prendre aussi, par exemple, la situation de Moïse. Ça n'aurait pas été trop difficile pour Dieu d'enlever la mer Rouge, mais il a préparé un chemin à travers la mer Rouge. Et Dieu, il te délivrera et te donnera la victoire à travers les difficultés. Et on est encouragé à faire l'expérience de la bonté de Dieu au milieu de tout ce qu'on est en train de vivre, parce qu'il est avec nous et il nous rejoint. Ce qui est aussi fort dans ces 2 histoires, c'est qu'en fait, à aucun moment, ils ont refusé de renier Dieu. Ils ont choisi de rester fidèles au prix de leur vie. Nous, on connaît leur histoire, on connaît en fait qu'ils vont être délivrés, mais eux, ils étaient prêts à faire confiance, peu importe le dénouement. Ça veut dire qu'ils étaient prêts à mourir pour lui à ce moment-là. Et si on se met à leur place, c'est incroyable, vraiment. On peut le voir dans Daniel 3, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Ils étaient prêts à mourir. Peu importe le scénario, ils ont fait confiance à Dieu. Ils savaient qu'il allait être avec eux, mais ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas sûrs qu'il allait les délivrer. Leur vie, en fait, elle lui était totalement consacrée. Et ils n'ont pas prié pour enlever la difficulté, mais ils ont fixé leur regard sur Dieu. Ils savaient et croyaient que Dieu était avec eux à ce moment-là. Et puis, c'est cette conscience et cette confiance que Dieu était avec eux qui a fait leur force. Notre puissance, elle réside vraiment, notre puissance et notre force, elle réside vraiment dans le fait qu'on peut faire confiance à Dieu parce qu'il est avec nous dans ces moments-là. Puis ça va à l'encontre de ce que le monde ou notre chair nous dit. Et en fait, quand on est lui-même avec nous, j'ai réalisé souvent que je prenais conscience qu'il était avec moi, mais c'est comme si je n'avais pas conscience qu'en fait, il était avec moi, mais avec toute sa nature. Et puis, en fait, quand on regarde les différents noms de Jésus ou de Dieu dans la Bible, il y en a beaucoup, j'en ai peut-être oublié. Mais dans Matthieu 1, il est dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Un des premiers noms, c'est Emmanuel, il est avec nous, ça veut dire qu'il est avec nous. Par exemple, ensuite, on l'appelle aussi l'alpha et l'oméga, c'est le créateur de toutes choses. Il était là au début et il sera là à la fin, donc c'est le maître de tout. On peut le voir dans Apocalypse 1.8. Ensuite, il est appelé aussi Jésus, prince de la paix, celui qui calme la tempête, celui qui est dans la barque avec nous. Dans Ésaïe 9.5, sauveur, dans Ésaïe 43:11, lumière du monde qui agit comme guide dans Jean 8:12. Il est aussi appelé homme de douleur dans le sens où il a de l'empathie pour tout ce qu'on vit parce qu'il a vécu tout ce qu'on a vécu. Il est appelé rocher aussi dans Deutéronome 32:4, refuge, roi des rois et seigneur, rédempteur parce qu'il a racheté mes péchés, consolateur et libérateur, bon berger parce que c'est un père pour nous. Si t'es perdu, il viendra te chercher. L'agneau de Dieu, parce qu'il a sacrifié son fils, enfin, il s'est sacrifié pour nous. Et en fait, tous ces noms, en fait, c'est Jésus qui est avec nous. Et du coup, quand on a besoin de consolation, le consolateur est avec nous. Quand on a besoin d'être délivré, le libérateur est avec nous. Puis en fait, c'est cette conscience que c'est pas seulement qu'il est présent à nos côtés, mais c'est tous ces bienfaits de sa présence qui sont avec nous. Et puis là, j'ai pris quelques exemples, mais quand le monde te dit d'avoir peur et de stresser, Jésus, il te dit « Fais-moi confiance, je suis avec toi. C'est le prince de la paix, le refuge, le rocher qui est avec toi. » Quand le monde te dit que tu n'es pas capable, Jésus, il te dit « Je suis avec toi et c'est moi qui te rends capable. » Il est appelé lumière du monde, c'est lui qui guide toutes choses. Quand le monde te dit que tu es seul, Jésus, il te dira « Je serai toujours avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. » C'est Emmanuel, c'est le berger, c'est le consolateur. On peut voir ça pour plein de choses. Quand le monde te dit d'avoir honte, Jésus te dit « Je suis avec toi, cette honte, je la prends sur moi. Ce n'est pas à toi de la porter, je l'ai déjà vaincue. » Et puis c'est le rédempteur et le libérateur. Quand le monde te fait souffrir, Jésus te dit « Je suis avec toi et j'ai vécu ce que tu as vécu. Et je pleure avec toi, c'est l'homme de douleur. » Quand le monde il te dit que tu es perdu, eh ben Jésus te dit « Hey, je suis avec toi, laisse-moi te guider, on va y aller ensemble. » Quand le monde il te dit que tu n'as pas d'importance, Jésus il te dit « T'es mon bien le plus précieux, je suis mort pour toi, agneau de Dieu. » Quand le monde pourrait te dire que tu n'es pas beau ou que tu n'es pas belle, eh ben Jésus il te dit « Je suis avec toi, je te vois et tu n'aurais pas pu être plus beau ou plus belle parce que c'est moi qui t'ai créé. » Et c'est prendre conscience qu'il y a tous ces aspects de son caractère, c'est qui il est qui est avec nous. On a parlé de l'Ancien Testament, et puis j'avais envie de m'arrêter sur un moment clé. C'est sur la dernière prière de Jésus avant qu'il se fasse arrêter, avant d'être crucifié. En fait, c'est une prière qui s'appelle la prière sacerdotale. Et en fait, c'est une prière où il fait le bilan de sa vie et puis on dit qu'il livre comme son testament spirituel avant de se faire arrêter. Puis en fait, c'est une prière d'intercession. Il intercède pour ses disciples et puis pour tous ceux qui se convertiront par la suite. Et quand j'ai lu cette prière, c'est dans Jean 17, si jamais, ça m'a tellement touchée. Parce que il connaît toute la souffrance qu'il va vivre. C'est avant en fait que toute la passion, que tout commence. Et à ce moment-là, sa dernière prière d'intercession, il l'a fait pour nous. En fait, au début de sa prière, il prie pour lui-même. Il demande à Dieu de le glorifier pour qu'il puisse à son tour rendre gloire à Dieu. On dit qu'il lève les yeux au ciel puis il dit « Papa, c'est l'heure. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils révèle ta gloire. » Dans la suite de la prière, il prie pour ses disciples. Jésus, il demande à Dieu de prendre soin de ses disciples, de les garder forts et puis de les garder unis. Mais il demande à Dieu aussi de les protéger du mal pendant qu'il sera plus sur terre. Il connaît l'ennemi qui va venir sans cesse essayer de nous troubler et il prie pour ses disciples pour les garder de ça. Et il prie pour leur sanctification, pour qu'ils soient purifiés et puis consacrés à sa vérité, pour qu'ils portent du fruit et puis c'est ce qui va se faire au travers de son sacrifice pour nous. Et en fait, à la fin de sa prière, Jésus y prie pour nous. Il intercède, il dit, pour tous ceux qui croiront en lui par la suite. Et là, il dit ça. « Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. » Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je te ferai encore connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Jean 17, 24-26. Là, Jésus, Dans cette dernière prière, il exprime son désir d'intimité avec nous. Il désire une communion profonde avec nous pour qu'on puisse avoir une expérience directe de sa présence, de la présence de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus la prière passe, plus il va répéter « Père ». Et puis en fait, ça montre que sa prière, elle va en s'accentuant, elle s'intensifie. Et en fait, ça montre que son désir, sa dernière volonté avant de se faire arrêter, ce qui brûlait ardemment au fond de son cœur, c'est qu'il voulait qu'on soit unis à lui, c'est qu'il voulait qu'il soit en nous. Il dit « Père », puis après il répète juste après « Père, juste ». Il prie pour qu'il ne nous laisse pas seuls. Et c'est ce qui va se passer avec la Pentecôte. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et puis là, en fait, c'est plus seulement qu'il est avec nous, mais c'est qu'il est en nous. Constamment, partout et en tout temps. Donc il est mort pour nous, il ressuscite, il passe encore un peu de temps sur terre. Et puis ce jeudi, on vient de fêter son ascension. C'est le moment où il monte au ciel. Et ses derniers mots avant de monter au ciel, cette fois, c'est « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » dans Matthieu 28, 20 et dans une autre version. « D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde, chaque jour. » Il était physiquement avec les disciples, mais il est en esprit avec nous. Les derniers mots qu'il prononce, c'est la promesse qui sera toujours avec nous. C'est cette promesse qui nous assiste de sa présence, qui agit en nous et par nous, par la puissance de son esprit. On est unis à lui. Et puis le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus qui ne nous quitte jamais. Il ne nous laisse jamais seuls. Et il y a quelques points qui peuvent peut-être nous aider à prendre conscience de sa présence en nous. On oublie parfois que nous aussi, on doit être avec lui. Et puis, c'est comme s'il faut exercer son esprit à réaliser que Jésus, il est là en permanence, dans nos cœurs, à nos côtés, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Il demeure en moi et ne me laisse jamais seul, comme il dit dans Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. On est totalement dépendant de sa présence. Et demeurer en grec, c'est meno. Ça veut dire rester, continuer à être présent, s'attendre. On s'attend à lui, on le recherche. Parce qu'on peut rapidement laisser cette promesse devenir comme un chant qu'on a trop entendu. On connaît la mélodie par cœur. Les paroles, en fait, on ne fait plus vraiment attention à ce qu'elles signifient. Et puis, en fait, finalement, cette promesse, on la sait, mais en fait, elle reste dans un coin de notre tête et puis elle ne descend pas au cœur. Mais comment on peut l'entendre? Comment on peut se laisser guider si on n'a pas réellement conscience de sa présence avec nous? Comment on peut croire qu'il guérit quand on n'a pas conscience de sa présence avec nous et qu'il agit par nous? Mais il est vraiment là. Et puis, on l'a aussi ressenti dans le temps de louange avant. Il est vraiment avec nous. Et puis, avoir conscience de sa présence, ça ne veut pas dire sentir sa présence tout le temps. Mais une fois qu'on croit qu'il est là, une fois qu'on sait qu'il est là, eh ben on cherchera à demeurer en lui et on cherchera sa présence, à ressentir sa présence. Et avec la team leader, il y a un moment, on a regardé une vidéo de David Terry qui parle en fait des 5 niveaux de la présence de Dieu. Et puis vous pouvez la retrouver sur YouTube, je vous encourage vraiment à la regarder, c'est hyper intéressant. C'est 5 niveaux en fait pour aller toujours plus en profondeur dans sa présence. Et puis je vais juste vous les citer pour qu'on puisse parler de la suite. Le premier niveau, c'est l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que notre foi, elle s'appuie sur le fait qu'on sait qu'il est là. On sait justement intellectuellement que Dieu est là, que Jésus est là. Le deuxième, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est que c'est bon de savoir qu'il est là, mais il faut aussi qu'on puisse le sentir. Et c'est à chaque fois qu'on ressent le Saint-Esprit, ça peut être par de la chaleur, des picotements, des tremblements, ça peut être par des émotions. Et en fait, cette présence-là, elle est hyper importante parce qu'elle est là pour nous encourager, pour nous consoler, pour augmenter notre foi. Et puis c'est sa présence, en fait, qui porte du fruit. Le troisième, c'est la présence agissante de Dieu. Là, ça se manifeste par exemple par des guérisons, par des paroles prophétiques. Puis souvent, en fait, c'est moins centré sur nous qui expérimentons le Saint-Esprit, mais c'est porté sur les autres, c'est Dieu qui nous utilise. Et puis en fait, il parle même de la présence agissante, c'est là où en fait on collabore avec Dieu. Ensuite, il y a la présence souveraine de Dieu, où Dieu, en fait, là, il prend totalement le contrôle de tout, d'un moment. Et c'est par exemple ce qu'on peut retrouver dans les histoires de réveil, par exemple, qu'il y a dans certaines villes, dans certains lieux. Et puis ensuite, il y a la gloire de Dieu. Et là, c'est ce qu'on aimerait tous, mais notre corps ne peut pas le supporter. Tellement sa gloire est grande, on n'arriverait même pas à le supporter physiquement. Et en fait, c'est un peu par palier. Mais on ne peut pas être dans la présence manifeste sans avoir pris déjà conscience qu'il est là avec nous. Et en fait, je réalise que même parfois, j'oublie qu'il est là. Alors, ce n'est pas grave, mais en fait, j'ai envie de saisir plus souvent qu'il est là à mes côtés pour que je puisse grimper dans ces niveaux, parce que j'ai envie de vivre plus avec Dieu. Et puis, on voit aussi, avec ces niveaux comme ça, que Dieu, il n'est pas limité. Vous avez peut-être l'impression d'avoir une bonne relation avec Dieu, d'expérimenter les choses, mais en fait, il y a encore de la marge. On peut aller loin dans ces niveaux, c'est génial. Le deuxième point qui peut nous aider à prendre conscience de sa présence, donc le premier, c'est vraiment exercer son esprit à réaliser qu'il est à nos côtés. Le deuxième, c'est accueillir sa présence en le louant. La louange, parfois on est dissipé, puis la louange, elle a vraiment cette capacité à rediriger nos cœurs sur Dieu, de libérer nos cœurs en fait, de tout ce qui pourrait être une entrave à sa présence. Et puis la louange, elle permet aussi de saisir et d'accueillir sa présence et de lui donner la place, de lui donner sa place. On loue Dieu pour qui il est, pour toute sa nature justement. Et puis j'ai lu quelque part que la louange bâtit notre foi, elle terrasse l'ennemi, puis elle élève Dieu. On le loue et Dieu va prendre plus de place. Et du coup, on va avoir plus de facilité à réaliser qu'il est là. Elle nous permet de garder nos yeux fixés sur Dieu plutôt que sur les circonstances. C'est vraiment, je sais que tu es là, mais je veux garder les yeux fixés sur toi et je veux passer un moment avec toi. La louange, elle amène la manifestation de la présence de Dieu, puis elle effraie l'ennemi. L'ennemi, il peut pas tenir, il peut pas résister à la présence de Dieu, il aime pas ça. Comme par exemple quand Paul et Silas, ils sont dans la prison, ils venaient de se faire battre, et puis ils ont commencé à louer Dieu, à accueillir sa présence, puis en fait, il y a des choses qui ont découlé de ça. Il y a les murs qui sont tombés, il y a un garde qui a été converti. Et puis, malgré leur situation difficile, ils ont choisi de louer Dieu et de l'accueillir et de réaliser que Dieu, il était avec eux dans ce moment-là. Il y a une force dans la louange et puis c'est vraiment un moyen de connecter avec lui. Un troisième point, c'est rappeler ses promesses comme des déclarations. Dieu, il donne plein de promesses au travers de sa parole, ça peut être au travers de la Bible, ça peut être aussi des promesses qu'il nous donne personnellement, et puis c'est tellement riche quand on a des promesses aussi qui viennent directement de lui. Elles sont vraiment là pour nous donner de l'espérance, pour nous consoler, pour nous encourager, et puis on va renforcer notre confiance en Dieu en rappelant et en proclamant ses promesses. Ça nous permet vraiment d'en avoir conscience et de les déclarer. Il le dit dans Psaume 119, 49 à 50, il faut saisir ses promesses sans rappeler... Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Elle a été mon réconfort dans mon chagrin. Ta promesse m'a fait revivre. Et dans une autre traduction, c'est « me rend la vie ». Puis en hébreu, c'est « shaya ». Ça veut dire renouveler, guérir, avoir la vie, sortir du découragement, de la faiblesse, vivre dans la prospérité. En fait, c'est vraiment de rappeler ses promesses. Ben, en fait, c'est puissant parce qu'en fait, c'est ce qu'il a dit, c'est qui il est. Et puis, il y a trois petits mots qui sont puissants quand on les met dans nos prières. C'est « tu as dit ». Dans Genèse 31,3, Dieu il fait une promesse à Jacob, puis il dit « je serai avec toi ». Une promesse qui dit que Dieu il est favorable et puis qu'il va œuvrer pour son bien. Et plus tard, en fait, quand il est en crise, il prie Dieu, puis il lui rappelle la promesse qu'il a faite. Puis il dit « Dieu de mon père Abraham ». Il dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit « retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien ». C'est vraiment, il rappelait les promesses que Dieu leur avait faites en disant « tu as dit que ». Et puis l'ennemi, il sait bien ça. On peut le voir aussi justement quand il a tenté Jésus dans le désert. Ben, il a tourné les promesses que Dieu lui avait dites, il les a changées. Et puis il y a vraiment une puissance là-dedans. Parce qu'en fait, il y a tout notre monde qui est en train de bouger. Il y a rien qui est stable dans ce monde, sauf Dieu, qui reste le même, qui était le même hier, qui est le même aujourd'hui et qui est le même demain, éternellement. Et en fait, ces promesses, elles demeurent. Ces promesses, elles sont sûres, elles sont stables. Et puis, il dit qu'il reste fidèle à ses promesses. Donc, il y a vraiment ces trois points. Exercer notre esprit à prendre conscience de sa présence, accueillir sa présence en le louant, et puis rappeler ses promesses. Je vais peut-être demander si tout d'un coup, Johanna, tu arriverais à venir... Je vais vous partager une image que j'ai reçue pendant un sozo. Et en fait, Dieu m'a vraiment mis à cœur de vous la partager ce matin, puis je crois que ça pourrait rejoindre tout d'un coup certaines personnes. Quand je dis que je l'ai reçue pendant un sozo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en grec, ça veut dire sauver, délivrer et guérir. Et puis en fait, c'est un ministère de guérison intérieure et puis qui libère aussi. C'est un moment qui est guidé par le Saint-Esprit. Et puis Dieu, il libère en fait de manière profonde la guérison de certaines blessures qu'on peut avoir vécues. Puis ça nous conduit à avoir une relation plus intime et plus grande avec Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit. Et j'ouvre mon cœur parce que c'est une parole, enfin c'est une image qui m'a énormément parlé et qui me parle encore aujourd'hui, dans certains moments des fois aussi difficiles ou plus compliqués. Mais je crois vraiment que c'est juste de la partager ce matin. Et dans un sozo, en fait, au bout d'un moment, on nous demande si on voit des murs ou des obstacles, parce que Dieu, il nous révèle des fois des choses qui nous empêchent d'avancer dans notre foi ou de grandir dans notre intimité avec Dieu. Et puis, en fait, quand on m'a posé cette question, je me suis vue enfant dans une cabane. Et puis, en fait, il y avait une immense baie vitrée. Puis je voyais par cette grande fenêtre, en fait, un pré en fleurs, entouré d'une forêt, il y avait des tables de pique-nique. Et puis, il y avait Dieu, il y avait le Saint-Esprit, en fait, qui jouait avec plein d'autres enfants. Et puis, ils rigolaient, ils s'amusaient. Et en fait, je me suis vue derrière cette baie vitrée, toute seule. Oh, purée, oh. À chaque fois, ça me fait ça, hein, c'est normal. Je me suis vue derrière cette baie vitrée, seule, et j'avais comme le sentiment, en fait, que moi, j'avais pas accès à ça. Et que j'étais différente, que j'y avais pas droit. Et puis, en fait, je pleurais en silence en voyant tous les autres s'amuser. Et après, j'ai vu Jésus à côté de moi qui me disait que j'avais aussi droit à ça. Et puis que ma place, elle était pas là, derrière cette baie vitrée, mais qu'elle était vers les autres enfants. Et dans un sozo, quand on est face à un mur, face à un obstacle, on nous demande souvent ben, quel objet Jésus te donne pour que tu puisses briser ce mur. Et c'est comme si Jésus il me disait que je pouvais simplement poser mon doigt sur cette vitre pour que la vitre éclate et puis pour que je puisse rentrer dans ce pré avec tous les autres enfants. Et la suite de cette image, elle se termine bien. Je jouais à la balle magique avec Jésus dans le pré avec tous les autres enfants et on m'a vu arriver, en fait, comme pour me montrer que j'avais ma place et que j'étais importante. Et il y a plusieurs aspects qui me parlent à travers cette image et qui sont pour nous aussi ce matin, vraiment aujourd'hui. Le premier point, c'est que tout le monde a accès à la présence de Dieu, sans exception. Cet accès à la présence de Dieu, il n'est pas réservé pour certaines personnes. Et j'avais vraiment à cœur de dire, on y a tous droit et dans la même mesure. Il n'y en a pas certains qui ont droit à plus de Saint-Esprit, plus de Dieu et d'autres moins. On y a tous droit et dans la même mesure. Et ce n'est pas seulement qu'on y a droit, c'est qu'on est appelé à y accéder parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour avoir cette union avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et Dieu, il ne limite pas son accès à lui, au contraire, il le cherche. Et tout ce qui est un obstacle à sa présence, c'est des murs qui nous appartiennent, mais Jésus, il dit qu'il est là pour nous aider à les détruire. Mon deuxième point, c'est que je pense qu'on est appelé à être comme des enfants, pour deux raisons. Je pense qu'on est appelé à être comme des enfants pour qu'on savoure en fait des moments avec lui, où on n'a aucune conscience du temps qui passe, comme quand on était enfant, aucune charge de ce qu'on doit faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez des journées où vous jouiez à police et voleur ou à cache-cache dehors, puis en fait vos parents vous rappelaient parce qu'en fait la nuit commençait à tomber, puis que en fait il y avait c'était l'heure du souper. Puis en fait vous aviez même pas réalisé qu'il avait commencé à faire nuit. Vous n'aviez même pas réalisé en fait que vous n'aviez pas encore mangé. Je pense que Dieu, il veut qu'on, enfin, comme si on joue, comme si de jouer avec lui, comme si d'être dans sa présence, c'était la chose la plus importante à faire pour le moment. Tout le temps, on n'y arrive pas, mais il faut y avoir des moments comme ça. C'est tellement précieux. Et les enfants, parfois, ont le bon sens des priorités. J'en ai pas encore, mais. Quand on grandit, on travaille, on fait des choix, on a la famille, il y a de l'administratif, il y a plein de choses. Parfois, on oublie de s'arrêter et de savourer ces moments avec Jésus. Et puis, je crois que c'est pour ça que Jésus, il cherche vraiment l'enfant en nous, une personne prête à s'arrêter pour lui. C'est pour ça, je pense aussi, que je voyais tous des enfants. Le deuxième point, pourquoi on est appelé à être comme des enfants, je sais que Francis l'a aussi ressenti quand il a peint cette image, cette peinture. Dans Romains 8, 15, il est dit « Et vous n'avez point reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Le mot « adoption » est hyper fort. Paul, il utilise ce terme pour illustrer notre nouvelle relation avec Jésus. Et puis, dans la société romaine, quand il y a un enfant qui était, enfin, quand quelqu'un a été adopté, même s'il avait été esclave, même s'il était esclave, en fait, il perdait automatiquement tous les droits de son ancienne famille. Et puis, il gagnait tous ceux d'un enfant légitime dans sa nouvelle famille au même titre que les autres enfants. Peu importe s'il était esclave ou pas, il avait tous les mêmes droits, au même titre que tous les autres enfants, même ceux qui étaient du sang. Il devenait l'héritier des biens de son nouveau père. Et puis quand on accepte Jésus dans notre vie, on bénéficie de tous les privilèges et de tous les droits dans la famille de Dieu. Et parfois on a l'impression qu'on ne lui appartient pas, mais le Saint-Esprit, c'est le témoin de cette adoption. Et puis sa présence en nous, elle nous rappelle qui on est. Et dans cette image, on nous voit vraiment arriver parce qu'on est légitime et puis on a notre place. On n'a pas reçu un esprit d'esclavage. Puis Abba, à la fin, il dit Abba Père. Abba, en araméen, ça veut dire père. Mais en fait, c'est le premier mot que prononçaient les enfants. C'était Abba, ça voulait dire papa. Et dans même certaines traductions, c'est petit papa. C'est même un mot, par exemple, papounet ou quelque chose d'hyper intime. Donc le premier point, c'est que tout le monde a accès à la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est appeler à être comme des enfants. Et le troisième point, c'est accepter que ça peut être simple. Quand il m'a montré que l'outil était mon doigt, juste posé, en plus, j'ai même pas dû frapper cette vitre, c'était pour me dire que, en fait, ça peut être simple. Parfois, il faut accepter que ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué. L'ennemi complique tout, mais ça, c'est autre chose. C'est simple d'entrer dans sa présence, mais ça reste mon choix. C'est à moi de faire le pas, de poser ce doigt sur cette vitre. Et puis personne ne peut le faire à ma place. Mais Dieu nous aime tellement. Pourquoi il aurait rendu son accès difficile? Dieu y voit et connaît nos cœurs et il ne va jamais ignorer ou passer à côté d'un cœur assoiffé. Au contraire, il attend ça, il recherche ça. Comme c'est dit dans Proverbe 8, 17, « Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. » On a l'assurance de le trouver si on le cherche. Et son but, c'est vraiment pas de rendre les choses difficiles, il se laisse trouver facilement. Mais il faut le chercher de tout notre cœur. Et le quatrième point, c'est que Jésus est de notre côté. En fait, j'avais l'impression d'être spectatrice de ce qui se vivait. J'étais triste, je me sentais seule, indigne. Mais Jésus, il était avec moi, derrière cette vitre. Il était de mon côté. À aucun moment, j'étais seule à vivre ça. Et en fait, cette image, elle me rend tellement triste. de savoir qu'on peut ressentir ça par moments. Parce que Dieu, il a tout fait pour qu'on ait l'accès le plus intime avec lui. Il y a même un voile de 18 mètres de haut, de 12 cm d'épaisseur qui s'est déchiré quand il a envoyé son propre fils à la mort, pour qu'on puisse avoir le privilège d'avoir cet accès à lui. Et Jésus, avant de mourir, il a intercédé pour qu'on ait ce privilège, pour qu'on ait cet accès. Puis parfois, on se sent encore rejeté, mis de côté, alors qu'on est totalement légitime de faire partie de la famille de Dieu. Je crois que ce matin, David a parlé de main tendue, je crois, dans sa prière avant. C'est vraiment une invitation personnelle à réaliser que Jésus, il est à nos côtés, et puis à en prendre conscience, puis à faire un pas de plus avec lui. Et puis peut-être que justement, tu ne le connais pas et tu as envie de répondre à cette invitation en donnant ta vie à Jésus. Peut-être que tu te sens illégitime et puis tu as envie de répondre à cette invitation d'adoption et de faire partie de la famille de Dieu et il t'accueille vraiment les bras ouverts. Ou peut-être que tu veux juste répondre à cette invitation de laisser prendre plus de place dans ta vie et puis à réaliser qu'il est vraiment là avec toi, avec tous les bénéfices de sa présence. Seigneur, je te remercie pour ta présence à nos côtés. Ta présence qui nous fait tellement de bien. Seigneur, tu vois tous les cœurs, Seigneur, et tu vois les cris de nos cœurs si on a envie de se tourner vers toi, si on se sent peut-être rejeté, indigne, ou si on sent qu'on n'a pas le même accès que les autres, ou encore si on a juste plus soif de toi et on a envie de passer ces niveaux. Mais Seigneur, je te prie pour que tu puisses rejoindre toute personne, Seigneur, dans la situation où il est, Seigneur, et que tu puisses le rejoindre et venir le toucher par ta présence, par qui tu es. Que tu puisses faire ton œuvre en eux, ton œuvre en nous. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ton amour, merci pour ta présence. C'est tellement bon d'être avec toi. En ton nom, Seigneur Jésus, amen.